Là, il y a quelque chose qui s'est produit. Le couvercle est tombé un peu rudement sur le bras du tourne-disque. C'était Bette Midler dans Remue Ménage, Bonne Femme Radio Zone 93.8. Alors Viviane, cette histoire que dans certains endroits dans l'entreprise, à un moment donné, qu'il soit homme ou femme, certains disent « je n'aimerais pas que l'autre sexe arrive dans la profession ». Tu nous as cité l'exemple des scripts, tu nous as cité l'exemple du son ou de la prise image et du maquillage pour ce qui est de l'entreprise média, dont on peut dire maintenant la télévision, je crois que ce sera plus clair à partir du moment où on parle image. Est-ce que c'est le cas dans les deux autres entreprises électroniques ou alimentaires que tu as visitées? Et pourquoi? Est-ce que c'est... On veut rester, par exemple, oui, nous les femmes, on s'entend bien, les maquilleuses, qu'est-ce qu'on vient s'embarrasser d'un mec chez... Là, ça changerait tout. Qu'est-ce qui fait cette prise de position assez radicale sur le refus de l'autre?
C'est compliqué parce que je pense que c'est effectivement totalement irrationnel. C'est souvent un discours qui est fait avant que l'autre entre, l'autre sexe arrive. Hein, donc c'est un discours de peur face à quelque chose qui va effectivement changer ce qui se passe. La mayonnaise va prendre un autre goût et on ne sait pas très bien. Donc il y a effectivement une réaction de peur qui s'exprime par plusieurs manières. On a eu le cas d'un type qui dirigeait un atelier de femmes. Lui, c'était vraiment le petit coq dans son atelier, qui dirigeait d'ailleurs d'une main assez brutale. Et alors lui, il ne voulait absolument pas qu'il y ait d'hommes qui viennent, parce que ça aurait marché sur ses plates-bandes. Alors il nous disait, ça irait pas, en gros, ça baiserait dans les toilettes, quoi. Et vraiment, ça introduirait, tout à coup, le sexe serait introduit, la séduction, on ne veut pas de ça. Dans la même entreprise, le discours d'une responsable d'atelier, une femme qui dirigeait une équipe que de femmes, elle aussi, elle disait « j'ai pas envie d'un homme ». Là, c'était le discours, les hommes, premièrement, les hommes, c'est compliqué. Nous, on est plus simple, on est plus logique, on est plus rationnel. Les hommes, ils compliquent tout, donc ils feraient pas bien, ils feraient pas comme nous. Et puis, en plus, ils risquent de pas admettre mon autorité, de la mettre en cause. Donc là, il y avait, c'était plutôt cette crainte-là qui était exprimée. Mais il y a effectivement une solidarité qui se crée dans un atelier, dans un bureau, entre collègues. Et on pense que cette solidarité risque de se modifier avec la présence de l'autre sexe. Est-ce qu'on ne pourra plus faire des blagues cochonnes s'il y a une femme? Est-ce qu'on ne pourra plus papoter sur nos règles et nos accouchements, etc., et nos amants s'il y a un homme? Enfin, c'est un peu tout ça qui est mis en question. Mais c'est vraiment, c'est très irrationnel parce qu'en fait, quand il y a un homme ou une femme qui entre, ça se passe plutôt bien, en tout cas au départ, quand il y a une seule personne, surtout les femmes, quand elles arrivent dans un atelier masculin, dans certains cas, bon, bien sûr, elles disent toutes en avoir bavé au début, avoir dû montrer leur preuve, qu'elles savaient faire le boulot, qu'elles n'étaient pas absentes, qu'elles le faisaient bien, qu'elles ne cassaient pas le rythme. Les hommes, par exemple, ont très peur que les femmes travailleront moins vite et donc elles vont faire baisser la productivité et que ça va réjaillir sur le salaire de tout le monde. Donc effectivement, elle doit montrer...
Ils doivent mettre les bouchées doux pour
montrer qu'elles sont capables. Qu'elles savent en faire aussi bien que les hommes. Et après, elles sont plutôt relativement bien acceptées. Ça devient un peu la
voire chouchoutée.
Chouchoutée, ça devient un peu la mascotte de l'équipe. Alors qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une véritable mixité? Est-ce qu'à ce moment-là, les hommes se sentiraient menacés? C'est possible. Par exemple, dans le cas des médias, dans l'information, par exemple, où une femme a pris une fonction dirigeante, non, la directrice de l'information, c'était une femme. Bon, après, on peut dire, critiquer son mode de direction, mais je crois que ça a été très mal pris aussi, l'équipe.
Le fait que ce soit une femme qui allait les diriger.
Alors, est-ce que c'était une femme ou est-ce que c'était cette femme? Disons, le débat reste toujours ouvert, mais c'est vrai que quand il y a certaines femmes qui prennent du pouvoir, à ce moment-là, ça fait... si c'est elle qui l'a pris, c'est pas moi, en gros. Hein. Si les femmes prennent les postes, ben c'est les hommes qui les auront pas. Donc là, il y a vraiment une compétition pour les postes qui se met en place et les hommes peuvent être assez féroces contre les femmes qui sont encore minoritaires à atteindre ces postes-là. Et puis, bon, alors quand je dis, par exemple, quand je parlais de médias, où effectivement, on peut dire là, la mixité, elle s'est introduite. Mais il y a quand même des... Alors, il y a quand même des différences. Bon, déjà, tu me parlais des journalistes. Il y a pas mal, par exemple, de femmes qui sont dans le téléjournal. Et moins dans les magazines. Parce que c'est vrai qu'un magazine, ça veut dire une disponibilité pour le travail plus longue. Alors, le téléjournal, c'est plus gérable. Hein, on travaille comme toute la journée, mais le soir, c'est fini.
Voilà, tandis que les magazines, c'est les tournages en extérieur.
Ça dure, etc. On y pense tout le temps. Donc là, il y en a moins. C'est plus difficile pour les femmes de partir. Par contre, il y a beaucoup de femmes qui sont correspondantes à l'étranger. Et même dans des positions assez parfois difficiles. Hein. On l'a vu, il y a une femme en Tchétchénie. En Russie, c'est une femme qui est allée en Tchétchénie, qui est allée partout. Alors, c'est aussi des tâches qui sont plus faciles à gérer justement avec la famille. Parce que quand on est correspondant à l'étranger, on peut gérer plus facilement ses horaires, on peut aménager, c'est plus souple finalement. Donc là, il y a énormément de femmes. Mais il y a d'autres ségrégations qui se mettent en place. Par exemple, il y a au niveau de la hiérarchie, on peut dire qu'il y a deux types de hiérarchie. Il y a une hiérarchie qu'on appelle fonctionnelle ou opérationnelle, qui est liée à la production d'une émission. Et c'est des hiérarchies tournantes. Dans le sens qu'on peut être producteur ou productrice d'une émission pendant une année et l'année d'après redevenir journaliste. Ou chef d'édition, présentateur, journaliste. Hein. Si on prend le cas du téléjournal, on est les trois choses à la fois. Donc la direction est tournante. Alors là, il y a autant de plus ou moins parité entre hommes et femmes. Par contre, si on prend des hiérarchies administratives ou des hiérarchies qui durent, là, on trouve plutôt des hommes. Hein, puisque dans cette entreprise des médias, dans la haute direction, il n'y a que des hommes. Donc, il y a cette division qui s'instaure. Et puis, à la manière dont les femmes... Moi, j'ai été très frappée en y allant par l'utilisation des prénoms. Le fait que les femmes, on les connaît par leurs prénoms. Et même dans le public, d'ailleurs. Souvent, c'est machine, c'est pas son nom entier ou c'est pas son nom de famille. On les tutoie facilement et puis il y a toute une proximité au niveau du corps. Il y a des choses très bizarres qui se jouent. On s'approche plus des femmes, la distance est plus grande entre hommes. Ce qui donne aussi une autre couleur à la présence des femmes dans l'entreprise. Elles sont autrement. C'est quand même pas... Elles ne sont pas vraiment traitées exactement de la même manière, à ce niveau totalement inconscient.
Mais toi, tu l'as ressenti comme quelque chose de positif ou de négatif ? C'est plutôt, elles sont nos copines, alors on en fait un peu ce qu'on veut. C'est un manque de respect que tu constates quand tu évoques
non,
cette question-là ?
Non, ce n'est pas ça. C'est dire toute chose qui, de fait, introduit qu'il y a une mode différente d'être femme et homme, introduit de fait une ségrégation aujourd'hui. Tout ce qui marque la différence des territoires marque en même temps la hiérarchie des territoires, parce que c'est comme ça que ça se passe. Tant qu'il y a une différence, elle est hiérarchisée, en fait. C'est dire un vaut plus que l'autre. Et c'est pas pour dire qu'il y a nécessairement du harcèlement sexuel ou qu'il y a de
mépris. Mais c'est significatif de cette
ségrégation. Mais ça veut dire que, de fait, les femmes et les hommes bougent différemment dans ces entreprises. Ça leur définit un territoire différent, une mode de bouger dans ce territoire différent. Et ça veut dire qu'il y a, de fait, ségrégation.
Une des questions que tu posais, je suppose, c'était est-ce qu'elles avaient envie, ils et elles avaient envie que leur situation s'améliore ? Je ne sais pas si vous leur avez posé clairement cette question-là. Est-ce qu'il y a des idées très précises ?
Alors, on leur demandait s'ils avaient envie, entre autres, de monter dans la hiérarchie, puisque une des questions, c'était est-ce que les possibilités de promotion. Alors, massivement, les gens disent non. Hein. Ils n'ont pas envie.
C'est par crainte d'une charge supplémentaire de travail ?
Il y a tout. Alors, effectivement, il y a plus de femmes qui ont soi-disant moins d'ambition que d'hommes. Il y a 80% des femmes qui disent non et 60% des hommes qui disent non, n'a pas envie. Bon, alors, essayons de voir un peu pourquoi. Premièrement, bien sûr, ceux qui sont déjà chefs, ils ne veulent pas venir plus chefs. Ou ils ne peuvent pas. Ils ont déjà atteint leur niveau maximum. Alors, ceux-là, bien sûr, ils disent non. Donc là, il y a déjà une différence. Les hommes sont déjà dans la hiérarchie, donc ils disent non parce qu'ils sont déjà arrivés. Alors que les femmes, elles disent non, surtout parce qu'elles n'ont pas la possibilité. dans beaucoup d'entreprises, il n'y a absolument aucune chance, quand on est femme, de faire une promotion. Elles le savent. Donc, elles ne vont pas dire « j'ai envie ». Oui. Hein, on dit toujours « oui » à ce qui est possible. Hein, on ne va pas dire « j'ai envie » si ce n'est pas possible. Alors, elles disent « je ne peux pas, je n'ai pas la formation, je n'ai plus l'âge, ce n'est pas possible avec des enfants ». Ça demande une trop grande disponibilité. Je ne peux pas parce que je suis à mi-temps. Je ne peux pas parce que j'ai peur de commander. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu. Et puis, les hommes disent, et certaines femmes aussi, disent « je ne peux pas parce que je n'ai pas envie parce qu'il y a trop de travail administratif ». Moi, j'ai envie de rester dans le travail intéressant, concret, de création, la pratique, ouais. Concret. Je n'ai pas envie de commencer à devoir remplir des paperasses. Ça m'emmerde. Je n'ai pas envie. Alors, c'est toutes ces différences-là qu'on voit. Donc, les hommes disent plutôt ça, les femmes disent tout autre chose, toutes ces autres possibilités. Mais à mon avis, c'est plus lié au fait qu'elles ne peuvent pas être chefs qu'à une réalité du discours. Parce que celles qui disent « j'ai envie », elles donnent les mêmes arguments que les hommes. Et c'est dans des situations où elles peuvent. Donc, à mon avis, les femmes, quand elles sont chefs, eh ben, elles le sont pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, il y a plus d'initiatives, je gagne plus... je suis plus autonome. Et puis, c'est dans la logique des choses, finalement.
D'une carrière, donc.
D'une carrière, ouais. D'une perspective de carrière. Donc, c'est... En fait, toutes les différences qu'on a vues sont plus liées à des différences de situation qu'à des différences de conception. Parce qu'il suffit que la situation change et puis les discours changent.
Et donc, par rapport à leur vie elle-même, c'est-à-dire la place du travail dans leur vie, il n'y a pas eu de revendication particulière, enfin, de proposition particulière, justement, dans le sens d'une organisation complètement différente, de la répartition des tâches au sein de l'entreprise et de la conception de la place du travail dans la vie des gens. Parce que cette histoire de dire « je travaille à plein temps puis j'en fais un 120 », on sait bien que c'est un réel problème pour beaucoup de gens, ça, quand même, hein. Sans tenir compte
alors,
même de l'histoire.
On ne leur posait pas la question en termes d'utopie ni de changement. Bien sûr, c'était la situation telle qu'elle était maintenant et telle qu'elle la vivait aujourd'hui qui nous a intéressés. Comme je disais, les femmes ont un véritable attachement à leur travail, ce qui est, malgré les complications, les difficultés, etc., elles y tiennent. Les gens, en fait, qui auraient envie d'arrêter de travailler, c'est des gens qui sont dans une situation conflictuelle dans le travail. Conflit avec les chefs ou les collègues, ça va pas, ça marche pas. Et à ce moment-là, on a envie de changer. Mais tous les autres, vraiment, il y avait cette forte envie de dire « le travail, c'est quelque chose de très, très important dans ma vie ». En ce qui concerne, par exemple, bon, bien sûr, nous, on s'est toujours attaché à ce que disaient les gens. C'est pas ce qu'ils vivent, disons, c'est peut-être différent de la réalité. On a vu, par exemple, chez les femmes cadres, qui avaient un conjoint, elles disaient toutes que leur mari partageait les tâches, faisait du travail ménager, qu'il y avait un véritable partage des tâches. Ce qui nous a quand même un petit peu étonnés.
Ah bon.
Surtout que quand on interrogeait les hommes, parce qu'on n'interrogeait pas leur mari, mais on interrogeait des hommes du même cas, style, qui aussi disaient, bien sûr, je partage. Alors, on entrait dans le détail, vous faites comment, là, qui fait la lessive, etc. Et puis là, on voit que, par exemple, il y en a un qui dit, je travaille à plein temps, j'ai 2 heures de transport par jour, je suis, en plus, chez moi, je bricole... Je pense toujours à mon travail, mais bien sûr, je partage tout le travail avec ma femme. Alors moi, là-dessus, j'ai des doutes. Mais les femmes aussi, alors on a l'impression que c'est moins... Elles sont dans une situation, je pense, moi c'est l'interprétation que j'ai, où le fait de dire « je partage avec mon mari », ça veut dire « mon mari est d'accord avec ce que je fais ». En gros.
Mais il me laisse me débrouiller.
Non, pas seulement ça, mais en fait, le fait que je travaille et que peut-être je me sens un peu coupable vis-à-vis de mes enfants parce que je ne les vois pas assez, etc., je n'ai pas à me sentir coupable. Mon mari me soutient dans cette démarche. Mmh. Moi, je pense que c'est ça qu'il y a derrière, le fait que je partage tout avec mon mari.
Mais ça, c'est déjà un acquis quand même intéressant par rapport à la situation de certaines femmes à qui on interdisait purement et simplement d'aller travailler, fut un
temps.
Tout
à fait. Oui, bien sûr. C'est vraiment... le travail, vraiment, les femmes sont entrées dans le monde du travail et je ne pense pas qu'elles soient prêtes à le quitter. Tous les efforts qui sont faits pour envoyer les femmes à la maison, leur donner des primes, etc., ça ne répond pas à ce désir qu'elles ont de sortir de la maison. Elles le disent. J'ai envie de sortir de la maison, je ne peux pas, je deviens neuneu, je suis restée une semaine, là j'étais malade, j'en peux plus, je suis contente de voir mes copines, de faire du boulot, ça m'intéresse. En plus, je fais un travail qui me plaît. Et puis, je ne veux pas être dépendante de personne. Je veux être libre, je veux avoir mon argent, je veux être... Il y a une femme ouvrière qui nous disait, on veut être comme les autres, on veut se dire qu'on est productif et qu'on réinjecte notre salaire dans le cycle de la production. On a envie de se sentir partie prenante de la vie dans son ensemble.
Est-ce que ces rencontres que tu as faites te donnent l'espoir que par rapport à l'ensemble des entreprises, je ne sais pas si on peut faire cette extrapolation, les femmes seront prêtes à justement s'adresser aux associations féministes ou syndicales si elles constatent qu'elles sont victimes d'une discrimination?
Alors, dans les entreprises qu'on a vues, le syndicat est très mal vu, de fait. Alors, je ne sais pas, moi, la réalité. Dans une des entreprises, clairement, où il y a un syndicat, clairement, il y a une ouvrière qui nous a dit... Elle avait en plus fait la formation de fromagère. Elle avait la formation, mais elle ne travaillait pas, puisqu'on n'engageait pas les femmes dans ces métiers, mais elle avait la formation. Et elle dit, je suis entrée dans cette entreprise avec... On était 5, 2 femmes et 3 garçons, on sortait de l'école. Les 3 hommes ont été contactés par les syndicats, nous jamais. Donc le syndicat est assez mal vu. Dans l'entreprise électronique, là aussi, le syndicat n'est pas autorisé. En fait, elles ne sont pas syndiquées ou peu. Il y a une commission d'entreprise, mais il n'y a pas vraiment de syndicat. Dans l'entreprise, là, bien sûr, il y a un syndicat puisqu'il y a une convention collective. Donc il y a vraiment le problème de la syndicalisation. Les femmes ne sont pas syndiquées. Alors... Est-ce qu'elles vont s'adresser Je ne pense pas que dans ce cadre-là, elles puissent s'adresser à des syndicats. Il y a en plus la situation très particulière de la France, de Genève, qui emploie en grande majorité des frontaliers, hein, quand même. Dans toutes ces entreprises, c'est en majorité des frontaliers qui travaillent. Alors là, elles gagnent tellement plus par rapport à ce qu'elles gagneraient en France. Il y a vraiment aussi le chantage sur le poste de travail.
Eh bien, Viviane, merci. Je crois que j'espère qu'on aura l'occasion de rentrer peut-être, de revenir à cette recherche quand j'aurai eu moi personnellement la chance de la lire, ce que je ferai peut-être pendant l'été, parce que tu m'as dit que c'était un très gros pavé, donc il faut avoir le temps de s'y attacher longtemps, et pour pouvoir revenir à certains, peut-être, situations particulières.
J'aimerais juste pour finir pour peut-être par expliquer le titre. Donc on l'a intitulé « Construire l'égalité ». Parce que de même qu'on voyait que l'inégalité ou la discrimination était quelque chose de construit, puisqu'il n'y avait rien de naturel, de même on pensait que l'égalité était quelque chose à construire et à construire tout le temps. Dans le sens que l'égalité, ce n'est pas un état. Je pense qu'on n'y arrivera jamais, moi, à l'égalité entre hommes et femmes. Nulle part. Je pense qu'à chaque moment, il y aura des équilibres qui vont se construire et se déconstruire et se reconstruire. Mais que finalement, tout ce qu'on fait, c'est redistribuer les cartes, mais qu'on n'arrivera pas à la situation égalitaire. Parce que l'égalité, c'est un processus. Et, par exemple, si on prend le cas des femmes journalistes, on a vu, c'est une profession où les femmes sont entrées, mais en même temps, la fonction de journaliste, elle a perdu son prestige. Donc on voit bien que les choses se déplacent, que les équilibres se reconstruisent. Et que dans ce sens-là, je pense que la lutte pour l'égalité ne sera jamais terminée. Ça nous donne des longues journées pour notre radio, entre autres.
People want to- you want more of what you've got is enough to keep you struggling, the hatching of a plot. But justify yourself, you should power mongers gloating.
Voilà, aujourd'hui Remue Ménage est bientôt terminé. Et pour terminer, eh bien, je vous propose d'écouter quelques pages d'un magnifique disque qui a été enregistré maintenant, il y a de cela quelques années. C'est le Liberation Music Orchestra, fondé par Charlie Adan et entre autres avec Carla Bley, qui a composé avec Charlie Adan certaines de ses musiques, qui sont des sortes de relectures, réécritures de chants de la libération, puisque l'orchestre s'appelle ainsi, Liberation Music Orchestra, reprise musique, chansons de la guerre d'Espagne principalement, et quelques-unes d'Amérique latine. Et en particulier, je vous passe le morceau qui a pour titre la chanson pour le Che.